Europe 1.
Le journal de 6h, Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. La France rattrape son retard dans la course. Une première giga-usine de batteries électriques ouvre à Douvrin, dans le Pas-de-Calais. Un site inauguré aujourd'hui et la liste des invités est à la hauteur de l'enjeu. 3 ministres, un homologue italien et allemand, ainsi que les 3 patrons des groupes impliqués, Total Energy, Stellantis, Mercedes. Une usine devenue le symbole de la souveraineté industrielle de la France face aux géants asiatiques notamment. De quoi rendre fiers les salariés du site. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Lionel Gougelot.
Devant ce premier bâtiment, tout juste sorti de terre d'une surface de 8 terrains de football, Frédéric Pchibilski, le directeur du site, ne cache pas lui-même une certaine fascination.
On se dit c'est géant. Quand on voit la surface pour construire le deuxième bloc là en juillet, ah, ça fait encore plus grand.
Ici seront produits des modules pour batteries qui, à l'horizon 2030, équiperont 500 000 voitures par an, avec de premiers prototypes dès l'été prochain.
Nous sommes la première gigafactory de France et nous sommes la seule gigafactory qui peut montrer quelque chose, un produit et aussi des machines qui tournent et qui commencent à fabriquer des batteries.
Plus de 8 milliards d'euros d'investissement, 2000 emplois à terme sur le site et des salariés comme Lucie Huard, manager de ligne de production, engagée dans une véritable révolution industrielle.
Oui, effectivement, parce qu'on va créer des produits qu'on n'a jamais fabriqués en France, qui vont participer aussi à toute la transition écologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va minimiser l'impact aussi de notre moyen de transport demain envers l'environnement. Donc oui, une vraie fierté aussi par rapport à ça.
La première des 4 usines dans la région Nord qui devrait permettre à la France d'être autonome en production de batteries dès 2027. À Douvrin, Lionel Gougelot, Europe 1.
Un traité international et contraignant contre les déchets plastiques. Pour l'instant, on en est encore loin. Des négociations, en tout cas, ont débuté hier à Paris.
Jusqu'à vendredi, la capitale accueille les représentants de 175 pays chapeautés par les Nations Unies. Une coalition, et notamment la France, défend un texte contraignant, hors de question pour les États-Unis et la Chine, parmi les plus gros pollueurs de la planète où s'accumulent 350 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Nos bouteilles, nos pots de yaourt, nos emballages, d'ailleurs. Est-ce que vous faites attention à ce que vous achetez? Pour Europe 1, Stéphane Place a ouvert le sac de course de Girondins.
Il y a des éclairs au chocolat, c'est en plastique, tout en plastique. Pour mettre les légumes, il faut prendre une poche en plastique.
Constat sans appel de cette retraitée qui vient de faire ses courses dans ce supermarché de Talence. Difficile d'échapper au plastique, reconnaît cet autre client, Rémi, la quarantaine.
C'est l'emballage de salade.
Alors on a la salade.
Il y a une bouteille de jus de fruits, c'est encore du plastique. Ouais. Et puis après, il y a l'offre. Peut-être que si au niveau des producteurs, ils arrêtaient de produire du plastique. Mais à partir du moment où c'est disponible dans les magasins, on ne se pose pas trop la question, c'est vrai. On se dit c'est recyclé.
Le recyclage espéré et des habitudes surtout que certains ont décidé de revoir.
Bah, finalement, j'ai acheté simplement du café et j'ai surtout pris un cabas en tissu.
Ça s'est devenu une habitude que je n'avais pas auparavant, par exemple.
Et bah, je prends plus d'eau en plastique. Enfin, j'ai une bouteille cristalline et je la remplis à l'eau du robinet.
Et pourquoi ne pas revenir aux bouteilles en verre consignées comme avant, glisse un papy qui quitte la supérette.
Un reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. 6h04. Et si votre pièce d'identité et votre carte vitale ne faisaient qu'un? Un seul document sécurisé, c'est l'une des idées du gouvernement pour lutter contre la fraude sociale. 6 à 8 milliards d'euros par an. Gabriel Attal présente son plan d'action ce matin.
La ministre des Comptes publics veut aussi durcir les conditions de résidence pour recevoir les allocations sociales.
Oui, pour les APL, le RSA, la prime d'activité, il faudra être en France depuis au moins 9 mois. L'exécutif annonce aussi plus de contrôle pour les retraités à l'étranger. Des propositions inspirées du Rassemblement national, c'est l'avis du député. Député RN Jean-Philippe Tanguy.
C'est simple, ce sont nos mesures. La fusion de la carte d'identité et de la carte vitale, on le propose au moins depuis 2017. S'il y a des méthodes qui sont mises en place, qui sont bonnes, nous on les soutient. On ne va pas critiquer ce qu'on a proposé. Mais permettez-moi d'être très sceptique sur la volonté d'agir. Monsieur Attal, il reconnaît lui-même qu'il espère en 2027 ne récupérer que 3 milliards sur 6 à 8 milliards d'euros de fraude par an. Ça veut dire que lui-même reconnaît qu'ils sont tellement mauvais qu'ils vont encore laisser passer entre 25 et 40 milliards d'euros de fraude d'ici 2027. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point cet aveu involontaire, évidemment, est grave pour les comptes publics.
Le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, répondait à Wilfried de Villers pour Europe 1.
Les parlementaires vont rendre leurs conclusions sur la mort d'Ivan Colonna.
Après 6 mois de travaux, la commission publie son rapport aujourd'hui. Un texte qui devrait pointer une série de défaillances dans la protection du détenu corse. Ivan Colonna a été agressé en prison en mars 2022 par un homme radicalisé, déjà condamné dans un dossier terroriste. Une conférence de presse est prévue à 17h. C'est dans un mois pile, le 30 juin, la fin des tarifs réglementés du gaz, vous savez, tarifs fixés par les pouvoirs publics depuis 2007. D'ici là, 2,5 millions de Français vont donc devoir choisir une offre de marché. Si c'est votre cas, vous allez probablement être démarché par d'autres fournisseurs. Le médiateur de l'énergie appelle à la vigilance. Ghislain, 54 ans, a choisi, lui, de rester chez son opérateur.
Je ne ressens aucune angoisse. On a bien reçu les multiples courriers de relance des opérateurs historiques. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt dans l'expectative. On attend. L'idée, c'est de rester avec l'opérateur actuel pour aller sur l'offre qui nous proposera. Et de ne pas, je dirais, de pas opter pour des offres privées, qui sont, à mon avis, beaucoup plus dangereuses et beaucoup moins stables dans le temps.
Un témoignage recueilli par Hugo de Tournemire pour Europe 1. Il est 6h30. Presque 7 minutes, les sports sur Europe 1 et d'abord du basket avec l'affiche de la finale NBA. Cette nuit, les Heat de Miami ont décroché leur ticket pour le duel final, l'Est contre l'Ouest. Ils joueront donc face aux Denver Nuggets dès vendredi.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et si c'était lui, la nouvelle pépite du tennis français, Lucas Van Haché, le joueur de 19 ans, a frappé fort hier pour son premier match dans le grand tableau. Il jouait sur le 14, un court à taille réduite et surtout porte-bonheur pour les Français. Fiona Ferro, Léolia Jean-Jean, Lucas Pouille, ils ont tous quitté ce terrain avec une victoire. Le reportage de Colin Abgral pour Europe 1.
Situé à l'extrémité du complexe de la Porte d'Auteuil, creusé dans le sol, le court 14 a permis à chaque Français l'ayant foulé de se transcender, notamment Léolia Jean-Jean, qualifiée au second tour.
Je pense que si on fait ce même match dans d'autres conditions, je pense pas que la tournure soit la même. On ressent vraiment, on va dire, les vibrations du public, donc ça aide beaucoup.
Hier, ils attendaient la pépite Lucas Van Haché. Anthony, arrivé 2 heures en avance, casquette vissée sur la tête, décrit l'expérience.
En fait, c'est un court où, par rapport aux autres grands courts, tu peux y aller et quand même avoir pas mal de monde. Du coup, ça met des grosses ambiances. Et puis de l'autre côté aussi, le fait qu'on soit vraiment intimiste avec les joueurs, on peut les voir vraiment de plus près, alors que sur les grands courts, c'est un peu plus compliqué.
2200 spectateurs chauffés par un soleil présent de bout en bout, un Français sur le court et le 14 s'embrase. Lucas Van Haché, première victoire pour son premier Roland-Garros. Cela valait bien une autre Marseillaise. Aujourd'hui, Fiona Ferro goûtera de nouveau au court 14. Hugo Gaston le découvrira. De chance de voir encore la magie opérer.
Le reportage de Colin Abgral et la magie, on l'espère aussi pour Richard Gasquet et Gaël Monfils qui jouent leur premier match aujourd'hui.
Europe 1 radio officielle de Roland Garros qui vous propose dès aujourd'hui un podcast exceptionnel consacré à Yannick Noah.
Eh oui, il fallait au moins ça pour les 40 ans de sa victoire à Roland Garros. Il s'est confié à Europe 1 comme jamais auparavant. Nous sommes allés le voir chez lui au Cameroun où il nous a raconté ses rêves, ses souvenirs. Foncez, les deux premiers épisodes sont déjà en ligne.
C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Romain Oquet, c'était votre journal de 6h sur Europe 1.